Eh bien, bonjour à tous, vous allez bien ce matin?
Oui.
Merci Seigneur, moi aussi, ça va très bien. Et nous allons voir un message concernant les choses qui vont se produire dans l'avenir, comme je le vois, comme je vois que ça va se passer comme ça, ça peut pas, c'est dans la logique des choses. L'Église, depuis que je suis entré dans l'Église en 68, j'ai vu des choses qui ont été très étonnantes, mais ça devient de plus en plus étonnant et je ne suis pas étonné de ce que je pense qui va arriver. Frères et sœurs, il faut savoir une chose, c'est que l'Église de Jésus-Christ s'est faite voler, mais ça avait été annoncé, ça avait été prophétisé. Ça a commencé dès le premier siècle de son existence. Vous vous rappelez, dans le premier saut, on voit un cheval blanc, on sait que c'est le diable, dans Apocalypse 6, 1, et il s'acharne dès le premier temps à détruire une chose très précieuse, c'est le premier amour. Vous vous rappelez, c'est écrit, on voit ça dans Apocalypse 2, 4, que c'est le premier amour que le diable a réussi à détruire dans l'Église primitive. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Déjà dans le premier âge. Je ne sais pas qu'ils aimaient plus Dieu, ils aimaient toujours Dieu, mais ils aimaient moins les frères et sœurs. Voilà, ça c'est typique, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais au premier âge de l'Église, qui typifie donc, la lettre aux Éphésiens dans Apocalypse 2, les disciples, il y avait une chose pour eux, c'est qu'ils détestaient l'œuvre des Nicolaïtes. Je vous ai déjà souvent parlé des Nicolaïtes, le mot Nicolaïte signifie ceux qui dominent le peuple, hein, Nikaos et Laos, dominer le peuple. Et au début, c'était une œuvre, l'œuvre de ceux qui dominent sur le peuple. Jésus leur dit, c'est bien que tu détestes cette œuvre, parce que moi aussi je déteste cette œuvre des Nicolaïtes. On trouve ça dans Apocalypse 2, 6, c'était donc des faux pasteurs, des faux ministres, qui étaient autoritaires, qui étaient légalistes, et qui voulait dominer sur le peuple en faisant peur aux gens, et voilà. Bon, mais maintenant, au cours des âges, très vite, l'œuvre des Nicolaïtes, on le voit, est devenue la doctrine des Nicolaïtes. Et ça, ça s'est passé à partir de 312, à peu près, quand on regarde l'histoire, jusqu'à 606 après Jésus-Christ, ils ont vraiment établi la doctrine Nicolaïte. Et l'œuvre de domination sur le peuple de Dieu, au sein de l'Église, est devenue une doctrine, c'est devenu la norme. Apocalypse 2, 15. Donc d'œuvre, tout simplement, c'est-à-dire ils prenaient autorité, mais après c'est devenu une doctrine, et puis si on n'était pas soumis à la doctrine, c'était... Enfin bon, c'est comme ça que le diable, petit à petit, a changé de couleur, hein, avec ce cheval, et est devenu véritablement... s'est infiltré dans l'Église, à tel point que finalement l'Église s'est divisée. Il y avait la vraie Église qui était cachée, qui était persécutée, et puis la fausse Église qui avait de plus en plus de place dans ce qui est du pouvoir temporel. Elle a pris autorité dans les choses de ce monde, le pouvoir politique et financier. Et de nos jours, eh bien, le commun des mortels pense que la vraie Église, c'est l'Église officielle ou les Églises officielles, parce que voilà, maintenant il y a plusieurs Églises officielles. Toutes ces églises qui sont reconnues, n'est-ce pas, par l'État, qui ont un nom, n'est-ce pas, on appelle ça les dénominations. Vérité, il n'en est rien, la véritable Église de Jésus-Christ, c'est pas ça. Quand Jésus était sur la terre, il savait très bien que le prince de ce monde, c'est Satan. Vous croyez que ça a changé? Pas du tout. Et il nous a avertis, nous disant que notre royaume n'est pas d'ici-bas. On est un royaume dans un royaume. Le royaume de ce monde est tenu par le prince de ce monde, et puis nous sommes un royaume dans le royaume, un état dans l'état, si vous voulez, quelque chose qui démange, qui gratte le diable, qui l'énerve, c'est pourquoi il s'attaque toujours à nous. Et nous n'avons pas à régner, nous sommes dans un royaume, dans celui de Jésus-Christ, et nous n'avons pas à régner ni dans l'Église, personne n'a le droit de régner dans l'Église, ni hors de l'Église. Ça n'est pas du tout notre rôle. Nous avons à régner sur notre propre vie. Ça, je vous l'ai déjà chanté sur tous les tons. mais j'y reviens en ce début d'année parce que c'est quelque chose d'important, tous ces petits roitelets entourés de 5 mémères, 3 paupères, et puis qui veulent faire les petits chefs de rayon, c'est détestable au possible, Jésus les hait d'une parfaite haine. Voilà, c'est clair, c'est dit, c'est fait. Jésus viendra pour établir son règne sur la terre, c'est lui qui viendra pour établir son règne sur la terre, et ce n'est pas à l'Église de chercher à établir ce règne. Bien sûr, il n'est pas interdit à un chrétien d'avoir de l'influence dans les milieux politiques, financiers ou artistiques et consorts. Ce n'est pas interdit, mais ça reste quand même encore des cas isolés. Ce n'est pas le but de l'Église que de régner sur le monde. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Et il est bien que des chrétiens apportent une bonne influence dans les milieux du monde, hein, dans la politique, comme notre frère Nicolas, qui est maire d'une commune de 50 000 habitants, c'est très bien, il va pouvoir apporter quelque chose de très bien. Mais lui, c'est un véritable chrétien, et ça reste isolé, c'est quand même pas voilà, le rôle de l'Église de prendre possession des gouvernements. Mais la véritable Église de Jésus-Christ n'a pas été appelée, absolument pas du tout, à prendre le contrôle sur les religions, sur les familles, sur l'enseignement, sur le gouvernement, sur les médias, sur l'art, sur l'économie. On n'a pas été appelé à ça du tout. Et c'est ça qui vient, mes frères et sœurs. C'était déjà dans la mer des prostituées, c'est-à-dire l'Église catholique. C'est venu, après vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu comment c'est passé dans l'Église protestante. Et maintenant, les évangéliques qui avaient été épargnés par cette idée, je vous promets, ils vont rentrer dedans. Je vous promets, ils vont rentrer dedans. La fausse Église fait toujours ça en agissant avec l'esprit nicolaïte. Ils veulent dominer le peuple. Au départ, ça part de bons sentiments, mais ça n'est jamais Jésus qui inspire ça. Et souvenez-vous que Jésus a de la haine pour l'œuvre des nicolaïtes, pour l'œuvre de ceux qui dominent sur le peuple et sur leur doctrine. La véritable Église de Jésus-Christ, elle se prépare humblement à la venue de Jésus-Christ qui est en train de renverser les nicolaïtes. Jésus est en train de passer tout ça, de secouer tout ça. Vous avez vu, ça se secoue, ça bouge partout, ça devient... c'est même honteux ce qu'on voit, par exemple, en pleine élection, ces hommes et ces femmes qui vont devoir nous gouverner, et la façon qu'ils ont d'agir, mais c'est vraiment du plus bas des étages, c'est honteux, je trouve que c'est un exemple déplorable, et on n'a vraiment pas envie de voter pour des gens aussi pourris, aussi mesquins, aussi mauvais, mais voilà, c'est comme ça, c'est le monde, et on sait bien que c'est le monde, et Jésus est en train de balayer tout ça, pour pouvoir venir établir lui-même. Il va descendre du ciel, visiblement, pour régner pendant 1000 ans. Et il régnera avec une verge de fer. On lit ça dans Apocalypse, chapitre 19, verset 15. Il est dit, « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera du verbe pètre. Avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ça, c'est quand Jésus revient pour régner 1000 ans. D'accord ? Et nous serons là avec lui. Mais en attendant, il va y avoir l'imitation de ça de la part des évangéliques charismatiques. Vous allez le voir, ça va venir. La véritable Église de Jésus-Christ, elle prie, elle reste humble, elle attend ça. Elle attend que Jésus revienne pour régner. Et on prie pour ça, et on remercie Dieu parce qu'on sait que ça va venir, et on ne va pas poser des bombes, hein. Et puis on ne cherche pas à dominer sur le peuple en imposant des lois ou ceci ou cela. Non, ce n'est pas notre rôle. L'Église véritable de Jésus-Christ ne va pas apporter la paix et la sécurité ni la prospérité dans ce monde. C'est faux de faux de faux. Ça n'est pas vrai. Ce n'est pas son rôle. Ce rôle-là, c'est celui de l'Antichrist qui vient et qui est déjà là, sous toutes sortes de formes, et il va se manifester finalement en un homme de péché. Et cet Antichrist, il est en train de mettre en place déjà les siens actuellement pour régner. lui, il ne pourra pas régner longtemps, il va régner que 7 ans. Déjà, il est le prince de ce monde, mais il va être le roi de ce monde pendant 7 ans. Juste après notre enlèvement, juste après que Jésus soit venu pour enlever son épouse. Une petite épouse, ça ne va pas être des millions et des millions de personnes qui vont être enlevées. Il ne faut pas croire ça, ce n'est pas vrai. Ils s'illusionnent, tous ces gens qui pensent que c'est un grand nombre de personnes qui vont être enlevées. Et la fausse église, elle a volé la vraie église. Mais en quoi est-ce qu'elle l'a volée? Eh bien, comme la petite église, la véritable église, s'est retrouvée mise de côté, persécutée, ignorée, massacrée pendant les siècles, eh bien, elle s'est un peu recroquevillée sur elle-même. Elle a perdu aussi des enseignements. Elle avait d'autres choses à faire que de discuter sur des enseignements de Patin Couffin. Elle devait se fortifier dans sa foi, se protéger. C'était quelque chose, n'est-ce pas? Et encore aujourd'hui, dans certains pays, c'est quelque chose de terrible. Si vous allez enseigner dans certains pays les enseignements qui sont donnés ici, ils vont dire, mais on n'a pas besoin de ça, c'est pas de ça dont on a besoin. C'est vrai, mes frères et sœurs. Et la fausse église, elle a pris les enseignements des prophètes bibliques, elle a pris les enseignements des apôtres bibliques et surtout de Jésus pour faire des enseignements, pour apporter des enseignements plus ou moins secrets qui plaisent à tous ceux qui les trouvent. Et dans ces enseignements, on a ôté la notion du péché, on ne parle plus de péché, on ne parle plus de la culpabilité qu'on a normalement en face de Dieu, mais ces enseignements parlent de des lois de la foi sans Dieu. Et ça, ça marche. Tout ça, c'est tous ces trucs de New Age et de... c'est des lois. Là, il y a des lois de la foi. Ça, la foi, elle répond à des lois. Et ces lois, elles se trouvent dans les Écritures. Et comme les chrétiens ne se sont pas occupés, ben c'est la fausse Église qui a pris ça. Mais ils ont enlevé Dieu de ça et ils se servent de ces lois. Il y a toutes sortes de lois. Il y a des lois physiques, il y a toutes sortes de lois. Et il y a aussi des lois qui gèrent toutes sortes de domaines. Par exemple, dans la santé ou dans le bien-être, dans les finances. Et tous ces gens-là ont pris ces lois et puis les balancent au peuple, mais sans parler de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont du succès. Parce qu'avec Dieu, eh ben, on est toujours confronté au truc du péché. Et le péché, ben, les gens, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas, parce qu'ils se sentent coupables. Donc, ils préfèrent ces fausses religions, cette fausse église qui leur dit, voilà, Dieu veut que vous soyez prospères, Dieu veut que vous soyez en santé. Dieu, c'est un évangile qui est tronqué, qui est falsifié. C'est vrai que Dieu veut qu'on soit prospère. C'est vrai que Dieu veut nous donner la prospérité. Mais pas à n'importe quel prix. Voyez, vous comprenez, mes frères et sœurs? La fausse église, elle a des filles. Vous savez, je vous ai identifié qui est la fausse église dans une des dernières prédications. Et cette fausse église, c'est une maman qui est prolifique. Elle a accouché de religions, plus ou moins chrétiennes, et aussi de sociétés plus ou moins secrètes, et de sociétés vraiment secrètes. Que, comme dirait Coluche, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Déjà, vous ne savez pas où ça se trouve, vous ne savez pas qui c'est qui est dedans, c'est pas pour vous. C'est des gens très, c'est une élite, n'est-ce pas? Et puis elle a aussi accouché de ce monstre, le New Age, avec toutes ses ramifications et tous ces trucs qui empoisonnent le monde. Mes frères et sœurs, il ne faut pas se laisser séduire. Et il y a des évangéliques, des gens évangéliques et particulièrement des charismatiques, des pentecôtistes, qui vont bientôt paraître et qui vont présenter, qui vont prétendre faussement être comme Christ. Vous allez voir, c'est subtil. Ils vont prétendre être de simples hommes comme Jésus-Christ, qui était un simple homme, mais doté de pouvoirs extraordinaires. Quand Jésus était un homme, un véritable homme, doté de pouvoirs divins. Mais c'est une hérésie. C'est une hérésie. Jésus n'a jamais cessé d'être Dieu. Tout en étant homme, il était parfaitement Dieu. Ces gens qui vont paraître vont séduire beaucoup de monde. Et il se base principalement, vous allez le voir, vous allez l'entendre de plus en plus sur Philippiens 2, 7. Donc ils vont dire, voyez, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mais mes frères et sœurs, Jésus ne s'est dépouillé que de ses attributs divins, mais pas de sa nature divine. Il faut être un peu subtil pour comprendre ça. Sa nature divine était là, elle était cachée dans sa chair, elle était voilée dans sa nature humaine en venant sur la terre, mais il continuait à être Dieu, le seul vrai Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il s'est dépouillé de ses attributs divins. Par exemple, quand il était à Jérusalem, il n'était pas en même temps à Capernaum. Vous voyez ? Il n'était pas omniprésent. Et ces gens qui vont venir avec des doctrines hyper positives, encore plus positives que positives, ces gens ne sont pas divins, bien qu'ils vont faire des miracles. La Bible nous dit qu'ils vont faire des miracles au point de séduire même les élus si c'était possible. On n'a encore pas vu ça. On n'a pas encore vu ça. Sous le quatrième sceau où nous sommes, mes frères et sœurs, là où nous sommes, ils ne sont que des faux prophètes, Matthieu 24, 11. Mais sous le cinquième sceau, vous irez regarder. Après l'enlèvement de l'épouse, ils sont appelés des faux Christ, Matthieu 24, 24. Pour le moment, ce ne sont que des faux prophètes. Mais ils vont devenir des faux Christ. Par contre, ceux de la vraie Église de Jésus-Christ, eux, nous, c'est-à-dire, nous sommes tels que Jésus est, 1 Jean 4, 17. Tu vas me dire, mais Michel, où est la différence ? Allez, elle est énorme. C'est-à-dire que nous sommes d'origine divine, de toute éternité, nous sommes fils de Dieu, les autres sont fils du diable. Est-ce que vous me suivez ? Nous sommes fils de Dieu, voilés dans la chair. Et la différence, c'est vraiment subtile entre leur enseignement et notre enseignement. Et il faut que je sois clair en ce début d'année pour dire quelle est la différence, afin que quand ça va être éclaté, on puisse dire, voilà, il y a une différence. Mes frères et sœurs, il y a une énorme différence, parce qu'il y a une énorme différence entre Jésus et nous. Pourtant, il est écrit par Jean, 1 Jean 4, 17, que tel il est, tel nous sommes. Mais la différence, c'est que nous, on a connu le péché, pas lui. Ayant connu le péché, nous avons eu besoin de pardon, pas lui. C'est une énorme différence. Ayant connu le péché, nos membres sont encore sous l'influence, sous l'élan, sous les tendances du péché qui était le nôtre, pas lui. Est-ce que vous voyez ? Ayant connu le péché, nous ne pouvons manifester que quelques dons. C'est l'Église entière qui manifeste tous les dons. Et en plus, plus nous avons de dons, plus nous sommes obligés d'être tenus dans l'humilité afin de ne pas nous enorgueillir. C'est arrivé à Paul et vous croyez que ça va pas nous arriver à nous, mais bien sûr. 2 Corinthiens 12, 7, Paul dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Vous croyez que Jésus avait ça ? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est en tant qu'Église rétablie que nous sommes tels qu'il est. Pas en tant que personne. Et vous voyez l'immense différence, mes frères et sœurs, l'immense différence. Mais quand on ne connaît pas bien les Écritures, quand on est un évangélique qui croit qu'il a fait de la théologie parce qu'il a bouquiné quelques trucs, et puis qu'on confond, je fais une image, hein, Wikipédia avec l'ENA, ben évidemment on se trompe. Maintenant, Regardons ce que Jésus est venu faire. La première fois qu'il est venu, c'était en tant que serviteur. La deuxième fois qu'il viendra, ce sera en tant que régnant. Et il en est de même pour la véritable Église de Jésus-Christ, pour les fils de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sur la terre tels des serviteurs. C'est à ça qu'il nous a appelés. Pas des Nicolaïtes, pas des dirigeants. Et nous reviendrons sur la terre pour régner en maître avec lui. Il ne faut pas se tromper ou se laisser tromper. Je dis ça aujourd'hui, c'est la deuxième prédication de l'année, ou la troisième. Eh bien, voilà, on s'en souviendra. Vous vous en souviendrez quand ça viendra. Parce que c'est logique que ça arrive. Ça a commencé avec l'Église catholique, ça a suivi avec l'Église protestante, et maintenant les Églises évangéliques, elles vont passer à la casserole, ils vont tomber dedans, et surtout les charismatiques. Les disciples de Jésus pensaient déjà, eux, que Jésus allait prendre le pouvoir temporel et chasser les Romains. C'est tellement humain de penser ça. Et ils se trompaient. Aujourd'hui, certains croient que l'Église va prendre le pouvoir et reprendre le pouvoir à Satan. Ils pensent qu'ils vont pouvoir contrôler la terre, reprendre le butin que Satan a volé à l'Église. Eh bien, ils se trompent. Quand Jésus reviendra, il n'y aura personne pour lui remettre les clés du pouvoir. Il le prendra. Ce n'est pas nous qui allons lui donner les clés du pouvoir. Non, mais c'est quoi ce cirque? C'est quoi cet orgueil démesuré? Notre travail est d'avoir personnellement l'huile nécessaire pour notre propre vie, à nous personnellement. Alors bien sûr, quand on œuvre pour Jésus, on aide les autres, mais on ne domine pas sur eux. Vous savez, on peut aussi aider les gens en dominant sur eux, en étant arrogant, en étant... Non, ce n'est pas notre rôle. Mais quand on aide les gens véritablement dans l'amour, avec amour, eh bien ça contribue à nous positionner en tant que vierge sage. Mais souvenons-nous que Jésus ne nous a jamais confié, il n'a jamais confié à ses disciples le soin de dominer sur la terre. Jamais. Avant son retour visible, ça sera toujours le diable et sa fausse église et ses sociétés secrètes qui domineront sur la terre. Et Jésus jettera tout ça par terre dès le premier jour quand il va arriver. Dans son retour visible sur les nuées du ciel, dès le premier jour, il va mettre de l'ordre là-dedans et les abaisser tous. Mais aujourd'hui, Jésus est roi, il est notre roi, il n'est pas le roi des faux ouins. Leur prince, c'est le diable. Leur onction peut être vraie, mais eux, ils sont faux. C'est ça, un faux ouin. Vous avez des gens qui sont véritablement ouin, c'est pourquoi ils peuvent faire des miracles. Le diable ne peut pas faire des miracles. Mais eux, ils peuvent parce qu'ils sont ouin, mais ils sont faux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de Dieu. Pourquoi ? D'origine, ils sont fils du diable. Comme Judas était fils du malin. Comme Caïn aussi. En ces derniers temps, qu'est-ce qu'on fait? On montre les signes du royaume, c'est-à-dire on est des signaux, on montre une direction, on montre la direction. Nous sommes comme Jésus l'a été lors de sa première venue, nous sommes souffrants. Les gens devraient être en admiration devant ce que nous faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ et dire bravo, bravo. Non, ils critiquent, ils jugent, ils condamnent. Pourquoi? C'est l'Esprit qui est en eux qui fait ça. Ce n'est pas parce que... C'est pas à nous que revient l'honneur de fouler aux pieds tous les royaumes et tous les ennemis de Dieu. C'est à Jésus que revient. Il a dit, c'est moi seul qui était au pressoir et qui a foulé aux pieds tout ça. C'est pas nous, c'est pas l'Église, c'est pas notre rôle. Et il les anéantira par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement. C'est lui qui le fera. 2 Thessaloniciens 2:8. C'est pas nous. Nous, on est là pour montrer les signes du royaume. Le premier signe, c'est de montrer de l'amour. Le deuxième signe, c'est de montrer la puissance de Dieu. ces gens évangéliques charismatiques qui vont venir pour séduire la vraie Église ne pourront pas nous séduire. Ils ne nous séduiront pas, ils feront des miracles bien plus grands que nous faisons. Parce que leur plan n'est que celui de Satan, celui qu'il a offert à Adam et Ève. Vous serez comme Dieu. Et puis ensuite, il l'a proposé à Jésus dans le désert. Vous vous rappelez ? Pendant qu'il jeûnait. Alors veillons donc à rester fidèles à ce que nous avons reçu. Grandissons dans ces choses, mais restons dans la droite ligne de ce que Dieu veut. Nous voulons participer au rétablissement de toutes choses. Cela consiste à retrouver les vérités oubliées et rejetées par la fausse Église, à les retrouver, mais à les vivre. Nous ne cherchons pas à établir une théocratie dans ce monde. Nous voulons juste être l'Église telle qu'elle était à Jérusalem, c'est-à-dire selon la Bible et particulièrement acte 2, acte 4. Pas comme les fausses églises qui sont des synagogues, des assemblées. Alors regardez comment a commencé l'Église et comment elle en est arrivée à la perversion dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Ça a commencé avec Constantin, en gros. Il a voulu christianiser l'Empire. Pas christianiser un empire. C'est pas comme ça que ça se passe. Et le diable s'est bien servi de son plan. Ah, les chrétiens étaient contents, ils étaient plus persécutés. Ah oui, mais à quel prix ? Ce faux christianisme a abouti à quoi ? À l'alliance, excusez-moi l'expression, à l'alliance entre le sabre et le goupillon. C'est la croix et le poignard. C'est ça, exactement ça. Elle a voulu régner sur le monde, cette fausse Église. Elle a voulu utiliser la force, elle a dû utiliser la force, elle a dû utiliser aussi la conspiration, le crime et surtout la corruption de la parole de Dieu pour arriver à ses fins et avoir des ministres dans toutes les communes. Et il y en a eu d'autres après, par la suite, un petit peu moins forts, qui ont essayé de prendre le pouvoir temporel. Il faut étudier l'histoire, pas seulement dans Wikipédia. Il faut lire les livres. Vous allez me dire, j'ai pas le temps. Eh bien, fais un autre boulot, alors. Et laisse ça au serviteur de Dieu, et puis écoute. Et discerne ce qui est vrai. Vous connaissez le moine Savonarole ? Savonarole. Il a commencé par dénoncer les crimes des Médicis. Ah, ce saint ministère des dénonciateurs. Sur YouTube, il y a plus de chrétiens qui ont le ministère de dénonciateurs que des chrétiens qui ont le ministère d'évangélistes ou de prophètes, docteurs, etc. etc. Vous n'êtes pas d'accord ? C'est pour ça que je ne veux pas être sur YouTube, je ne veux pas être mélangé à cette racaille. Ah, les saints dénonciateurs sanctifiés à bout filtre et bocombre doré à flamouille sourdissante. Et puis, ce moine, il a obtenu des responsables de la ville de Florence, parce que ça se passait là, d'organiser la ville selon les principes bibliques. Ce moine qui s'appelait Savonarole, c'est dur à dire, c'est des noms non, non, d'italien, c'est pas humain. Pardon, Charef. Eh bien, ça a été une horreur. Lisez l'histoire, ça a été une horreur. Il a créé une police des mœurs. Puis, une police de la pensée. Et ils ont imposé la sainteté par décret. Voilà. C'est bien, hein ? Ça a été tellement insupportable que le peuple... Ils ont demandé à faire revenir les Médicis, dis donc. C'est historique. Calvin, un plus minable, il a fait la même chose à Genève. Il a monté sa police des mœurs, une police de la pensée. Bon, il n'a pas fait aussi fort que le Moignon, il n'a pas réussi. Et puis ça n'a pas bien marché. Mais enfin, quand même, c'était dans son idée. Alors, que dit la Bible ? Que la couronne de gloire ne sera accordée qu'à ceux qui auront aimé et attendu son avènement, le retour, la venue du Seigneur Jésus-Christ, qui vient pour régner. 2 Timothée 4, 8. Est-ce que vous aimez penser que Jésus revient et que c'est lui qui va mettre de l'ordre ? Ce n'est pas nous de le faire. Ce n'est pas nos oignons, ce n'est pas notre monde. Même par exemple, essayer de mettre de l'ordre dans le sacro-saint ministère de ces andouilles qui ont le ministère de la dénonciation, je ne cherche pas à mettre de l'ordre là-dedans, je m'en fous. C'est le monde, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ agit. Pas du tout. N'importe quel chrétien inspiré sait où est le pharisien et où est le vrai. Il n'a pas besoin qu'on lui explique. Alors nous nous préparons à ça. Nous nous préparons à ce retour glorieux. Et nous sommes en tant qu'église locale, parce que nous sommes l'église locale, sous l'autorité de Jésus-Christ notre Seigneur. Pas sous mon autorité. Pas sous mon autorité. Ceux qui croient, il y en a dans le passé qui ont dit que c'était l'autorité, l'autoritarisme et tout. Mais au bout de 30 ans, ils ont dit ça. Ils auraient dû foutre le camp longtemps avant. Non, c'était juste une excuse, parce qu'ils voulaient eux-mêmes prendre l'autorité. Bande de Nicolaïtes. Ça sera comme ça jusqu'à son retour, mes frères et sœurs. Il a été rejeté, nous sommes rejetés. Il régnera, nous régnerons avec lui. Mais les choses doivent être dans l'ordre. L'Église n'est pas sur terre pour régner sur terre pendant son absence. Pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas sur terre pour dominer le monde. Pas du tout. Mes frères et sœurs, Satan est le prince de ce monde. Ce n'est pas juste un verset qui dit ça. 2 Corinthiens 4, 4. 1 Jean 5, 19. Apocalypse 12, 3. C'est lui le prince de ce monde. La vigilance, mes frères et sœurs, est plus que nécessaire. Nous devons faire attention. Alors, ce que nous sommes, nous sommes juste les signes du royaume qui vient, qui n'est pas encore là, mais qui vient. Alors il nous faut être éveillés, il nous faut manifester son amour, sa puissance. L'esprit qui souffle en ce moment dans le monde est de plus en plus l'esprit de la fausse Église. Et logiquement, ça devrait se passer comme ça, comme je vous l'ai dit aujourd'hui. Je ne dis pas c'est Dieu qui m'a montré, je dis c'est la logique normale du cours de l'histoire normale. Voilà ce que je vois arriver. Je vous l'aurais dit à l'avance, rappelons-nous, et veillons, et prions. Et puis je voudrais dire aussi une chose, veillons aux nouvelles traductions de la Bible. Moi je trouve qu'ils en sortent beaucoup. Et puis je trouve qu'il la falsifie de plus en plus. Il nous faut faire attention. Quand vous avez la nouvelle Bible qui sort, ne la prenez pas pour la bonne, la vraie, la meilleure. Non, 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 non. Il faut que vous ayez plusieurs versions. Il faut que vous alliez regarder avec Online Bible, ça existe, c'est un CD, vous mettez dans votre ordinateur les mots grecs, les mots hébreux, ne vous laissez pas avoir. Par exemple, la Bible d'Alfred Kuhn, la première fois qu'il a sorti ça, c'était Parole vivante. Vous aviez 1 Corinthiens 15, 29, où il était dit correctement, « Si Christ n'est pas ressuscité, à quoi cela sert-il de se faire baptiser pour les morts ? Si Christ n'est pas ressuscité, à quoi cela sert-il de se faire baptiser pour eux ?» Aujourd'hui, vous allez voir dans la version nouvelle de la Parole vivante, c'est pas du tout ça. C'est écrit, « Pourquoi mettrions-nous en péril notre vie en prêchant l'Évangile s'il n'y avait pas de résurrection ?» Et les jeunes qui lisent ça, ils croyaient que c'est la parole de Dieu. Vous comprenez ? Ils disent, c'est écrit dans la Bible. Voilà. Il falsifie et c'est... et de plus en plus, et vous allez voir de plus en plus. Je voulais vous dire ces choses alors que les chrétiens un peu partout se trompent d'ennemis. Ils se trompent d'ennemis, ils sont aveuglés. Pauvres, aveugles, misérables et nus et ils ne le savent pas. Ils sont, sans même s'en rendre compte, sous l'influence de la franc-maçonnerie, des Illuminati et des satanistes qui sont déguisés en personnes ayant l'apparence de la piété. Ils ont, ils ont la bonne apparence de la piété. Ils ne sont pas comme moi qui vais au théâtre et aussi, à l'opéra ou des choses comme ça. Non, 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 eux, ils sont saints, n'est-ce pas? Ils ont toujours une apparence, n'est-ce pas, tellement extraordinaire, de pureté, de sainteté. Ils ont toujours les yeux levés au ciel, hein, machin, religieux. On va assister à des choses que vous ne croiriez pas si je pouvais vous les dire. Les heures qui viennent, mes frères et sœurs, sont très, très sombres. Tous ceux qui vous prétendent au contraire sont des faux prophètes. Veillez et priez. Amen.
Amen.
Amen. Merci Jésus. Merci de nous donner cet avertissement alors que nous commençons maintenant cette année et que nous puissions mettre en pratique ta parole et rien d'autre. Dans le nom de Jésus, je te prie, mon Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu.